à voix nue. Martin Kenéen s'entretient avec Jacques-Alain Miller. Aujourd'hui, quatrième volet de nos entretiens, rue de Lille. C'est au 5 rue de Lille que Jacques Lacan recevait ses patients sur son divan. Et c'est au numéro 3 de la même rue qu'il déjeunait quotidiennement avec Sylvia Bataille, sa femme. À l'époque où vous devenez proche de lui, Jacques-Alain Miller, vous devenez en effet celui que Lacan choisit pour établir ses séminaires. Et vous devenez aussi son gendre après avoir épousé sa fille Judith.
Moi, j'ai donc rencontré, j'ai vu Lacan la première fois le 15 janvier 1964, quand il est venu à l'École normale faire sa première leçon de ce qui devait être le séminaire des quatre concepts fondamentaux de la psychanalyse. À la fin de sa leçon, il a demandé que les normaliens viennent se faire reconnaître de lui, donc nous sommes allés vers le bureau. Voilà les noms qu'on a évoqués précédemment. Et il nous a fait remplir des fiches avec notre nom, notre prénom, notre date de naissance, ou notre adresse, notre téléphone, je ne sais plus. C'était pas très habituel, les profs ne faisaient pas ça, c'était un peu, sans doute, les médecins, les psychanalystes. Aucun de nous n'était en analyse. Et au premier rang de la salle, il y avait les notables de son école, et tout de suite, une petite tension entre nous et eux, muette. Enfin, qu'est-ce que c'est que tous ces petits jeunes qui viennent? Et puis, qu'est-ce que c'est que ces notables-là? Qu'est-ce qu'ils font là avec les ayants droit au premier rang? Bon. Ensuite, à la deuxième leçon, c'était un d'entre nous qui était Michel Thor, qui est toujours psychanalyste, qui écrit, là, qui s'est, je crois, retourné un peu contre Lacan. Et qui était celui qui connaissait d'entre nous, qui connaissait Lacan depuis plus longtemps, qui avait étudié ça, qui avait fait un exposé chez Althusser, comme moi-même, moi j'en ai fait trois finalement. Et Michel Thor, dans la deuxième leçon, a pris la parole, si je me souviens bien, ça doit être dans le livre. Et la troisième fois, c'est moi. Et là, ça a marqué parce que j'ai dit, monsieur, je sais que beaucoup de monde vous prend, vous êtes pris pour un gourou, etc., mais nous vous considérons comme un théoricien rationnel et je vais vous poser des questions de cet ordre. Et tac, tac, j'ai commencé à dévider, à lui présenter que j'avais repéré qu'il parlait du manque à différents endroits, mais qu'à une fois, il disait manque ontologique, c'est cet adjectif ontologique sur lequel je lui demandais des explications. Et donc, alors ça a sidéré les gens que, semble-t-il, on s'adresse à lui comme ça, pas de façon insolente, mais assurée et simple. Et il l'a très bien pris lui-même, il aurait pu me rabattre le caquet en disant « mangez un peu de soupe, mon petit », surtout que là, j'étais très fluet, bon. Et non, il a pris ça au sérieux, et je suis allé le voir, je me souviens, je suis allé le voir pour la première fois avec Jean-Claude Milner. Bon, il fallait qu'on se tienne tous les deux, qu'on s'encourage pour aller le voir. On était un peu, je ne sais pas, Rosenkrantz, Guildenstern, je ne sais pas où tu fais tondu, allant voir le docteur Lacan. Et je me souviens, on était dans la salle d'attente, et pour nous, enfin pour moi en tout cas, je ne sais pas pour Jean-Claude, mais tout signifiait, pourquoi une chose était posée là. Enfin, l'effet du sujet supposé savoir fonctionnait à plein, à mort. Et bon, on était ensemble, je lui ai rappelé récemment, lui dédicaçant ma vie de Lacan, qu'on avait fait cette démarche tous les deux. Et ensuite, il faut croire que, je ne peux pas dire ça autrement, simplement, j'ai plu à Lacan. Lui, j'ai eu un coup de foot théorique, donc je suis tombé raide dingue du lacanisme, si je puis dire. Mais je crois que je lui ai plu, en tout cas j'ai ça, que... pendant les vacances d'été, il m'a invité à Guitrancourt. Et j'ai passé le mois d'août de mes 20 ans à Guitrancourt entre Sylvia et lui, pendant qu'il écrivait. Et donc, il m'a donné accès à sa bibliothèque, qui était énorme, à Guitrancourt. Il avait fait construire ça dans une ancienne étable. Enfin bon, on appelait ça l'atelier. Il y avait une très belle bibliothèque qui avait été construite par le menuisier du village sur ses plans, avec une grande échelle. Tout ça était dans un désordre incroyable, et donc je comprends ça, parce que quand on a plus de 60 ans, déplacer des livres, ça fait mal au dos, maintenant c'est mon cas. Et donc là, à l'époque, je déplaçais tout sans problème, et au fond, je ne savais pas comment lui marquer ma gratitude. Je lui avais dit, mais écoutez, votre bibliothèque est en désordre, je vais vous la mettre en ordre. Et donc, je lui ai rangé sa bibliothèque, ce qui m'a permis de lire beaucoup de livres, ce qui m'a permis de lire des séminaires antérieurs, de commencer à les lire, de voir enfin, pour moi, c'était la caverne d'Ali Baba. Et Sylvia Charmante, à l'époque, ils allaient bien ensemble. Et au fond, j'ai passé ça, le vrai pique-assiette pendant un mois, ou comme ce personnage de Courteline que j'aime beaucoup et dont on rit encore avec mon frère, la Dériette qui s'installe dans le couple, qui dit qu'il a trouvé un bon nid. Bon, et alors Judith, on ne l'avait vu qu'une fois. La fois où on avait invité Lacan, on trouvait, bon, il y a le séminaire, mais on voudrait un peu lui parler sérieusement, nous, les normaliens, donc on l'avait invité à venir dans une turne avec quatre d'entre nous, ça devait être Milner, Duroux, moi, quatrième, et il était venu, c'était d'ailleurs au moment où il avait sorti la formule que le transfert, c'est la mise en acte de la réalité sexuelle de l'inconscient. Et d'ailleurs, il dit dans le séminaire, j'ai eu l'occasion de percevoir que ça a retenu l'attention. C'est parce qu'on l'avait invité là-dessus. Et quand il était arrivé avec sa fille. Il est arrivé avec une créature, habillée en blanc, bronzée, parce qu'elle avait aidé le FLN. Et dès qu'il y a eu l'indépendance de l'Algérie, il a arrêté ses études pour aller enseigner la philo à Alger. Potelée, ce qui, pour ceux qui la connaissent maintenant, n'est pas son genre, mais à l'époque, elle adore les loukoums, et là-bas, elle se gavait. Donc, une créature bronzée, robe blanche assez serrée, une grande étole, muette, et accompagnant le docteur Lacan avec un sourire absolument indéchiffrable. Et je dois dire, là, je n'ai pas du tout eu de coup de foudre, c'était plutôt, notre réaction, c'était plutôt, mais qu'est-ce qui l'amène enfin, on va parler sérieusement, c'est pas les femmes qu'on amène quand on parle sérieusement. Donc, la misogynie traditionnelle, à l'époque au moins, des normaliens, pouvait s'exprimer, donc elle est restée dans son coin, et on a parlé sérieusement entre hommes de la réalité sexuelle de l'inconscient. Bon. Et donc ça c'était en mars, en l'été je suis là en sorte de donc fils de famille, pseudo fils de famille et parasite, mais j'apprends plein de choses et au déjeuner, et mais Lacan encore une fois, il venait d'être chassé de l'international et tout, pas un mot, il n'y avait pas une plainte, pas un souvenir, on ne parlait que de choses présentes ou d'avenir. Sylvia, elle, évoquait à l'occasion ses tournages, Renoir, etc. Bon, avec moi, elle me séduisait, comme ça, si je puis dire. Après ça, je suis revenu encore avec Trancourt à la Noël, parce que...
Trancourt, c'était la maison
La maison... Lacan. C'est la maison où Lacan passait ses week-ends et travaillait, et où il passait quand il pouvait, juillet, août, sauf voyage qu'il faisait en Italie ou ailleurs. Et j'y suis retourné encore la Noël, alors ça, parce que Sylvia m'a téléphoné, elle s'est rendue compte que j'étais seul à Paris, en train de travailler, et elle m'a dit, mais vous n'allez pas rester comme ça, vous allez venir. Et donc je suis parti, d'ailleurs j'ai acheté, là il fallait que j'achète quelque chose, je ne gagnais pas des masses comme élève de l'école normale, mais quand même quelque chose, donc je leur ai acheté un service de verre à vodka qui existe toujours, qui était mon premier cadeau que j'ai fait là-bas. J'ai passé Noël avec Sylvia et tout, et là il y avait peut-être Judith de retour d'Algérie, je ne sais pas. Ah oui, alors après son père m'a téléphoné en me disant, ma fille est de retour, elle va suivre des cours d'agrégation, je voudrais qu'elle le suive à l'école normale, est-ce que vous pouvez vous arranger ça? Je me suis dit, oh là là, bon, je manquais d'enthousiasme. Et elle-même me téléphone après en disant, ne vous occupez pas de ça, mon père a dû vous téléphoner, je vais suivre les cours d'agrégation à Saint-Cloud. Ah. Et je l'ai revu quand il y a eu une sorte de joute autour de la personne de Politzer, qui était donc un philosophe communiste qui avait promu résistant, héroïque, tué par les Allemands, et qui avait promis la psychanalyse. Et il y avait donc à Saint-Cloud un philosophe très politzérien qui était François Leibowitz, et moi qui étais moins politzérien. Et donc à un moment, il y a eu un déplacement des Cloutards à Rue d'Ulm, où... Leibowitz a présenté, a défendu Politzer, et moi j'ai fait un exposé qui s'appelait La lettre de Georges Politzer conduite à Jacques Lacan. Et donc là, Judith avait accompagné les Cloutards, mais j'ai vu qu'elle avait de la sympathie pour ma thèse. Et ensuite, il y a eu des journées de l'école freudienne, et je me souviens, elle était donc impatiente que le taxi n'arrive pas rue de Lille, et elle tapait sur le trottoir avec des petites chaussures rouges, et Villégier, après, m'a dit que dans le déjeuner qu'il y avait par des tables séparées, Judith et Sylvia m'avaient défendu contre des analystes qui disaient que je m'étais trompé, je ne sais pas dans quoi. Et je me souviens, ces deux choses, que les petites chaussures rouges qui tapaient sur le trottoir et la parole de Villégier que j'avais été défendu par Judith, ça m'a touché. Bon, toujours est-il que, au fond, à l'été 65, quelque chose s'est noué entre Judith et moi à Guitrancourt. Dans la méconnaissance supposée au moins du docteur Lacan et de Sylvia, c'est-à-dire j'avais une chambre d'amis, et la nuit Judith se relevait et venait me retrouver. Et donc ça a commencé comme une petite intrigue avec une atmosphère assez liaison dangereuse, c'est-à-dire on passe pour sans faire de bruit, quoi. Alors là, je dois dire, il m'est revenu un souvenir que je n'ai jamais raconté, à peine à moi-même, que j'ai bien vérifié avec Judith, et que je n'ai jamais raconté parce que c'est... Et je vais le raconter maintenant parce que le moment est venu, c'est dans ce moment-là où, pas de lâcher tout, mais quand même de reborn, de renaissance... puisqu'on a essayé de m'écraser complètement, de rayer mon nom dans toute la presse, partout, pour le public, que j'étais vraiment de trop, donc maintenant il faut que je sois vraiment de trop, mais dans la présence. Alors, et Judith, donc dans ce contexte, dit à son père, « Papa, il faut vraiment que vous nous lisiez quelque chose, vous lisez tellement bien, etc. » Donc en effet, elle m'avait dit que son père lisait la prose extrêmement bien, et donc il dit d'accord, on est dans l'atelier où il travaille, où il écrit, il va sa bibliothèque maintenant bien rangée depuis l'année d'avant, et il prend un livre, René Char, vous aimez René Char? Oui. Bon. Et je vais, alors juste avant que vous arriviez, je ne retrouve plus mon René Char de la Pléiade, je ne sais pas où il est passé, mais j'ai retrouvé sur internet le texte du poème qu'il a lu. Et si vous permettez, je vais vous lire, pas aussi bien qu'il l'a lu, bien sûr. C'est la compagnie des écolières. Je sais bien que les chemins marchent plus vite que les écoliers, attelés à leur cartable, roulant dans la glu des fumées où l'automne perd le souffle. Jamais douce à vos sujets, est-ce vous que j'ai vu sourire, ma fille, ma fille? Je tremble. Ça m'est difficile un peu de lire là. N'aviez-vous donc pas méfiance de... ce vagabond étranger? Quand il enleva sa casquette pour vous demander son chemin. Vous n'avez pas paru surprise, vous vous êtes abordée comme coquelicot et blé. Ma fille, je tremble. La fleur qu'il tient entre les dents, il pourrait la laisser tomber, s'il consent à donner son nom, à rendre l'épave assez vague. Ensuite, quelque aveu maudit qui hanterait votre sommeil parmi les ajoncs de son sang. Ma fille. Ma fille, je tremble. Quand ce jeune homme s'éloigna, le soir mura votre visage. Quand ce jeune homme... s'éloigna, dos voûté, front bas et mains vides, sous les osiers vous étiez grave, vous ne l'aviez jamais été. Vous rendra-t-il... votre beauté. Ma fille, je tremble. La fleur qu'il gardait à la bouche, savez-vous ce qu'elle cachait, père? Un mal pur, bordé de mouches. je l'ai voilé de ma pitié. Mais ses yeux tenaient la promesse que je me suis faite à moi-même. Je suis folle, je suis nouvelle, c'est vous, mon père, qui changez. Et donc il nous a lu ça, c'était comme si la foudre était tombée sur nous, et lui, absolument tranquille, pas un signe. Et il a dit, je vais vous en lire une autre, et il est allé prendre dans la bibliothèque Messaline, la Messaline de Jarry, décrivant l'impératrice errant dans les rues de Rome pour copuler avec le premier passant venu. Donc nous étions, Judith, absolument foudroyés, et en même temps, le docteur Lacan ne marquant absolument rien, comme s'il n'y avait rien. Et alors c'était un message, qu'est-ce que disait le message? J'ai tout compris, c'est quand même pas vous qui allez me... J'ai tout compris. C'était le poème, évidemment, un père qui va perdre sa fille, mais en même temps c'était la permission. Je veux dire, c'était le faire en poème et au fond ne pas dire « allez foutre le camp maintenant, vous avez corrompu ma fille ». Bien loin du cas. C'était au contraire une reconnaissance en même temps du fait. Et donc, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Alors, on était fait pour s'entendre de beaucoup de façons, puisque elle-même faisait de la philo. D'ailleurs, à l'époque, elle a passé l'agrégation une fois l'année d'avant moi. Elle a été première à l'agrégation, classique. Le docteur Lacan était très fier. Je suis pour quelque chose aussi parce que j'avais étudié un peu scientifiquement comment il fallait faire ses dissertations, et donc je me souviens donner une citation de Malebranche, je lui ai dit cette citation on peut la mettre dans toute dissertation de métaphysique possible. Mais elle a eu comme sujet à l'écrit, je me souviens du sien qui était la perfection, et ça lui allait très bien puisqu'elle avait quelque chose de parfait à ce moment-là. Très belle, elle avait sa photo d'ailleurs dans le cabinet de son père, et elle a traité le sujet avec Descartes, Spinoza, Merleau-Ponty, qui avait fait quelque chose sur l'infini au XVIIe siècle, et elle a été première.
Quand vous nous avez fait cette lecture du poème de René Char que vous a dit
oui.
Jacques Lacan à Guy Trancourt, au moment où vous courtisiez Judith Lacan.
Oui.
Il y a cette voix de... Il est question, pour moi, j'entends la voix aussi de Lacan derrière la vôtre.
Il avait... Alain Cuny avait été son patient. Et il avait une diction... Non, ce n'était pas celle de Cuny, mais enfin, il y a par certains traits, ça rappelait... Il ne respectait pas la grammaire dans sa diction, et ça faisait des effets de sens très, très... très, très prenant. Il ne respectait pas la grammaire comme Jouvet ne respectait pas la grammaire pour les pauses. Et ça donne des effets de sens qui étaient très, très maîtrisés. Il nous a lu d'autres choses, d'autres
parce que quand,
à d'autres moments.
Quand vous établissez les premiers séminaires, oui. vous avez pu écrire que vous le faites avec la voix de Lacan et sa diction si particulière dans l'oreille,
oui.
et que des années après, vous allez perdre cette voix de Lacan,
oui, oui.
et rédiger, établir ces séminaires...
plus à distance de
plus à distance.
Oui.
Et là, ce souvenir, ça a été l'occasion de retrouver quelque chose de la voix de Lacan?
J'ai retrouvé le moment, j'ai retrouvé, au fond, cette émotion qui était à la fois... quelqu'un, il disait « je sais ce qui se passe, peut-être que je souffre comme père », et puis ça m'a touché, là, ce vagabond étranger, c'est ce que j'étais... n'est-ce pas, fils de parents du ghetto de Varsovie, j'étais un vagabond étranger d'une certaine façon, et que j'étais, mais en même temps c'était accueilli, donc c'est ça qui m'a troublé, mais c'est pas sa voix. Non, alors les gens s'imaginent, ils traînent pour les séminaires, tu vois, comme si j'avais à livrer débité du saucisson. Ils ne se rendent pas compte que chaque chose, c'est une, enfin, du travail de vérification que ça demande, bien sûr, mais aussi du travail sur la langue, des équilibres, du rythme. Et c'est vrai que au départ, enfin, il est exact qu'au départ, je l'ai dit, j'étais plus près de... Pendant 10 ans, j'ai eu la voix de l'âge quand dans l'oreille, au point que, tout de suite après sa mort, je parlais un peu comme lui dans les dictions, au point que Judith ne supportait pas de m'entendre, et Gloria non plus, parce que ça me revenait. Bon, ça a duré 15 jours, un mois. Mais après, j'aurais pu le faire, parce que j'avais ça en moi, j'étais habité par ça. Et après, ça s'est effacé, c'est un fait. Et à ce moment-là, j'ai aussi compris que pour le public, il fallait, pour qu'il saisisse ce qui était vraiment important, il fallait que je retrouve une syntaxe plus française. J'étais obligé de torturer la syntaxe parce que Lacan, au fond, disait toujours la chose importante à la fin de la phrase. Et donc, il faisait des circonlocutions avant qui vont bien oralement. Alors, il y avait certains de ses élèves, d'ailleurs, qui imitaient ça. Ils imitaient les circonlocutions de Lacan, mais ils n'accouchaient jamais du terme important. Alors, c'était ce qu'il en est de ce qu'il en est, pour autant que, etc. Et puis, où était le beefsteak, comme disent les Américains, il n'était pas là. Des gens charmants, François Perrier, par exemple, faisait comme ça. Moi, j'étais écroulé de rire chaque fois que je le voyais faire imiter Lacan. Enfin, il imitait, il essayait de parler, lui. Mais il ne prenait que le moment de la circonlocution, pas le moment de la trouvaille. Donc Lacan torturait un peu les phrases et faisait attendre, alors tout le monde était suspendu, et hop, arrivait le terme, et puis ça recommençait. Et dans ma transcription des premiers, je respecte, je suis très près de ça, devant quand même respecter la grammaticalité de la phrase. Après, j'avais plus ça dans l'oreille, et je me suis dit, il faut que je tienne compte aussi du public, que pour eux c'est difficile, Lacan, c'est pas la peine de rajouter de la difficulté syntaxique, si on peut simplifier la syntaxe, la rendre plus française simplement, tant mieux. De la même façon que j'ai arrêté de mettre les caractères grecs, je mets plutôt la transcription en français. Il faut tenir compte de l'évolution, comme dirait l'autre, enfin, ou comme dirait le Vatican, hein, n'est-ce pas ? Il faut s'adapter, c'est ça la force de l'Église, n'est-ce pas ? C'est l'aggiornamento, donc j'ai aggiornamenté certaines choses, et avec plaisir, parce que ça permettait de faire mieux sentir aussi l'armature logique. Bon, il y a toute une histoire de ça, les crétins qui disent « et alors, ils traînent, etc. » Ils ne savent pas que ça m'a occupé tous les jours de ma vie, que quand je suis sur un séminaire, il faut que je travaille 12 heures par jour, je travaille facilement 12 heures par jour pendant un mois, que j'ai, si à un moment je n'ai pas fait ça pendant les vacances, c'est parce que j'étais occupé de créer des écoles à travers le monde, donc vraiment, ils n'ont pas l'idée de ce que c'est. Je leur pardonne, comme dit, je leur... Bienheureux les pauvres d'esprit, voilà. Bon, c'est comme la crétine là qui dit « je boucle les archives ». Bon, d'accord. Moi, j'ai trouvé, il y a 4 ans, 4 ans après la mort de Lacan, j'ai trouvé un petit carnet, en effet, qui était perdu dans un Guitrancourt. J'ai ouvert et j'ai compris que c'était les rêves du docteur Lacan de son analyse et que ça commençait le premier jour où il avait été en analyse. Bon, j'ai lu la première page, la deuxième page, et j'ai refermé parce que j'avais l'impression que je violais son intimité. Bon. Et je l'ai retrouvé pendant qu'il y avait un journaliste du Point, un photographe du Point, qui au dernier moment m'a dit « je voudrais des documents de Lacan », je lui ai dit « vous croyez qu'on les trouve comme ça, ils sont sous clé et tout », et je me suis rappelé que le petit carnet, je ne l'avais pas bouclé, je l'avais mis parmi des livres anciens, parce qu'il ressemblait à un livre ancien, et que je n'y avais pas touché depuis 1985, on est en 2011. Parce que pour moi, ce n'est pas de l'archive, comme pour madame, je ne sais plus son nom. Ce n'est pas de l'archive, c'est vivant, et c'est de l'intimité de Lacan. Donc, en effet, c'était vivant et j'ai résisté. Il y a eu quelque chose en moi qui résistait à fouiller dans les papiers personnels de Lacan. Et pourtant, je lui avais demandé, puisqu'il me donnait, je ne suis pas son exécuteur testamentaire, c'est sa fille, c'est ma femme. Mais il m'a donné le droit moral sur son œuvre. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que je fais de vos papiers personnels ? Il dit, c'est à vous de décider. Enfin, il n'a pas dit, c'est à vous de décider, mais c'est à vous. Donc, je vais me retrouver devant des problèmes à la Max Brod, devant Kafka. Bon. Moi, j'ai confiance que tout ce qu'il y a dans les papiers de Lacan est livrable au public. J'ai cette confiance-là. Et d'ailleurs, chaque fois qu'on m'a montré des lettres de Lacan que les gens voulaient publier dans leurs livres et tout, parce qu'ils les avaient retrouvées, j'ai toujours dit oui, en ne m'occupant pas de savoir si c'est des amis de Lacan, des ennemis de Lacan. Tout ce qu'il a écrit, je suis prêt à ce que ce soit publié. Mais moi, il y avait en moi une résistance à violer son intimité. J'espère que maintenant, avec ce qui vient de se passer, avec la nouvelle position que je prends, moi, ou qui s'impose à moi, je vais pouvoir le faire, et j'espère pouvoir éditer. C'est un vieux projet que j'avais aux éditions du Seuil, ça a été absolument impossible de le mener au Seuil, j'espère pouvoir le faire chez Lamartinière, à savoir de faire un très beau livre, avec 100 pages manuscrites de Lacan, choisies une par une. Par exemple, il y a une page où on le voit essayer le schéma de la métaphore et de la métonymie qui est devenu célèbre dans le monde entier. Eh bien, on voit les différentes versions qu'il a essayées avant. C'est très émouvant pour ceux qui se sont cassés la tête là-dessus. Eh bien, il y a comme ça des pages. Je voulais avoir 50 ou 100 pages manuscrites qui seraient, par exemple, sur la page de droite et sur la page de gauche, il y aurait la transcription et un commentaire, etc. Un très beau livre d'art. Eh bien, je serais heureux. Oui.